Second cri, suite. Vous ne pouviez voir à une grande distance à travers le brouillard, mais vous pouviez voir beaucoup, oh oui, beaucoup. Je suis étonné de la quantité de choses que vous auriez pu voir à travers un brouillard même beaucoup plus épais que celui de ce jour-là. C'était assurément une charmante occupation que de considérer dans les prairies ce qu'on appelle les traces de la ronde des fées, les places de la gelée blanche, marquées dans l'ombre silencieuse produite par les arbres et les haies. Je ne fais pas mention des formes inattendues que prenaient les arbres eux-mêmes et de leur ombre qui se confondait avec le brouillard. Les haies étaient privées de feuilles et embrouillées et abandonnaient au vent leurs guirlandes desséchées. Mais il n'y avait rien de décourageant dans ce coup d'œil. C'était une agréable contemplation, car elle vous rappelait que vous aviez en votre possession un chaud foyer et vous faisait espérer le vert printemps. La rivière avait un air frileux, mais elle était pourtant encore en mouvement et courait d'un meilleur train, ce qui était un grand point. Le canal était tardif et semblait être en torpeur. Il fallait en convenir. À quoi bon y penser? Il se trouverait bien plutôt pris dans la gelée quand elle viendrait pour tout de bon. Et alors, quel agrément pour patiner et pour glisser! Et les lourdes et vieilles baraques, glacées en certains endroits, s'abritaient près du quai, où elles laissaient échapper tout le jour la fumée de leurs cheminées de fer rouillé et attendaient paresseusement le temps pour la navigation. En un endroit, un gros monticule d'herbes sauvages et de chaumes brillait. Le feu apparaissait en plein jour blanc et éblouissant à travers le brouillard et jetait de temps à autre un trait rouge au milieu de celui-ci. En conséquence de cela, l'infumée, s'insinuant dans le nez de Miss Slobody, suffoquée, celle-ci, ainsi que c'était son habitude à la moindre provocation, réveilla le bébé qui ne voulait plus se rendormir. Mais Boxer, qui était en avance de près d'un quart de mille, avait rapidement passé les limites de la ville et était parvenu au coin de rue où vivaient Caleb et sa fille aveugle. Et longtemps avant que les Pilmingle eussent atteint leur porte, Caleb et sa fille se tenaient sur le pavé de leur porte prêts à les recevoir. Boxer, dirons-nous en passant, faisait certaines distinctions délicates et qui lui étaient propres dans les communications qu'il avait avec Berthe, ce qui me persuade qu'il savait qu'elle était aveugle. Il ne cherchait jamais à attirer son attention en la regardant, mais invariablement en la touchant. Je ne puis dire s'il avait acquis cette expérience en fréquentant quelques personnes ou quelques chiens aveugles. Il n'avait jamais vécu avec un maître aveugle. Ni M. Boxer le père, ni Mrs. Boxer la mère, ni aucun des membres de cette respectable famille, ni d'aucune autre, n'avait été connu comme aveugle à ma connaissance. Il avait peut-être trouvé cela par lui-même, tout seul, mais il l'avait trouvé. Il saisit le bas de la robe de Berthe avec ses dents, et le garda jusqu'à ce que Mrs. Peerybingle et le bébé, ainsi que Miss Slobody et le fermier, se trouvassent tous sains et saufs dans la maison. May Fielding était déjà arrivée, ainsi que sa mère, petite vieille querelleuse avec une figure chagrine, qui, sous le prétexte qu'elle avait conservé une taille semblable au pied d'un lit, était supposé avoir une taille transcendante et qui, en conséquence de ce qu'une fois elle aurait pu avoir une position meilleure, ou raisonnant dans la supposition qu'elle aurait pu l'avoir si quelque chose était arrivé, laquelle chose n'était jamais arrivée, et paraissait vraisemblablement n'avoir jamais dû arriver, ce qui était tout à fait la même chose, prenait un air noble et protecteur. Gruffy Tackleton était aussi là, faisant l'agréable avec le sentiment évident d'un homme qui se sentirait aussi indubitablement dans son propre élément que pourrait l'être un jeune saumon sur la cime de la grande pyramide. Mais, ma chère ancienne amie, s'écria Dot en courant à sa rencontre, quel bonheur de vous voir! Son ancienne amie était certainement aussi cordialement charmée qu'elle, et ce fut, vous pouvez m'en croire, un spectacle charmant de les voir s'embrasser. Tackleton était un homme de goût, cela ne faisait aucun doute, Marie était très jolie. Vous savez que quelquefois, lorsqu'une jolie figure à laquelle vous êtes accoutumé se trouve momentanément en contact et comparaison avec une autre jolie figure, elle vous paraît pour un moment être laide et fanée, et fort peu mériter la haute opinion que vous aviez d'elle. Maintenant, ce n'était pas du tout le cas ni avec Dot ni avec May, car la figure de May faisait ressortir celle de Dot et la figure de Dot celle de May, d'une manière si naturelle et si agréable que John Peerybingle fut sur le point de dire, lorsqu'il arriva dans la salle, qu'elles auraient dû naître sœurs, ce qui était bien la seule amélioration qu'il fut possible de leur appliquer. Tackleton avait apporté son gigot de mouton et, chose étonnante à raconter, une tarte encore. Mais nous ne regrettons pas une petite profusion lorsque cela concerne nos fiancés. Nous ne nous marions pas tous les jours. Il fallait ajouter à ces friandises le pâté au veau et au jambon, et les autres choses, comme Mrs. Peerybingle les appelait, et qui consistaient principalement en noix et oranges et petites tartes. Lorsque le repas fut servi sur la table, flanqué de la contribution de Caleb qui consistait en un grand plat de bois de pommes de terre fumantes, il lui était défendu par un contrat solennel de fournir aucune autre viande, Tackleton conduisit sa future belle-mère à la place d'honneur. Dans le but d'honorer le mieux possible cette place, la majestueuse vieille avait orné sa tête d'un bonnet calculé, suivant elle, pour inspirer des sentiments de respect aux plus étourdis. Elle avait mis des gants, car il faut être à la mode ou mourir. Caleb s'assit auprès de sa fille. Dot et son ancienne camarade d'école s'assirent côte à côte. Le bon voiturier s'assit au bout de la table. Miss Lobody avait été isolée pour tout le temps de sa présence, d'aucun autre article ou meuble que la chaise où elle était assise, afin qu'il ne se trouvât rien auprès de sa personne où elle pût heurter la tête du baby. Tilly, cependant, regardait les poupées et les bonshommes qui à leur tour la regardaient, elle ainsi que la compagnie. Les vieux et vénérables bonshommes qui se montraient à la porte de devant, tous en activité, prenaient un intérêt spécial à la partie. Par moments, ils s'arrêtaient avant de faire leur saut, comme s'ils avaient prêté l'oreille à la conversation, puis recommençaient plusieurs fois de suite à plonger d'une manière extravagante, sans s'arrêter même un petit moment pour respirer, comme s'ils se livraient tout entier à l'exaltation d'une folie joyeuse. Certainement, si ces vieux bonshommes désiraient se donner le plaisir d'une joie méchante en contemplant la déconvenue de Tackleton, ils avaient amplement raison de se satisfaire. Tackleton ne pouvait arriver à se mettre en belle humeur, et plus sa fiancée devenait enjouée dans la société de Dot, moins cela lui plaisait, quoiqu'il les eût réunis ensemble par un même dessein. C'était un véritable chien dans la mangeoire que ce Tackleton. Et lorsqu'il voyait rire tout le monde et qu'il ne pouvait pas, il pensait en lui-même immédiatement que c'était de lui qu'on riait. « Ah, May !» dit Dot. « Ma chère, quel changement !»« Comme en parlant de ces heureux jours d'école, cela nous fait rajeunir. »
« Cependant, vous n'êtes pas encore vieille, à proprement parler, » dit Tackleton.
« Regardez, mon sobre et laborieux mari, » répliqua Dot,
Il ajoute 20 années à mon âge, pour le moins, n'est-ce pas, John ?
40, répondit John.
Combien en ajouterez-vous à l'âge de May ? Je suis sûr de ne pas le savoir, dit Lot en riant. Mais elle pourrait bien risquer d'ajouter 100 ans à son âge au prochain anniversaire de sa naissance. S'écria en riant Tackleton, mais cela ressemblait à un tambour creux et il riait jaune. Et il regarda Dot comme s'il allait l'étrangler vraiment.
Ma bonne chérie, dit Dot, vous souvenez-vous de quelle manière nous parlions à l'école des maris que nous avions l'intention de choisir ? Je me rappelle plus combien le mien devait être jeune, beau, distingué, gai, agréable. Et le vôtre, May ?
Oh, ma chère, je ne sais si je dois rire ou pleurer quand je pense quelle folle fille nous étions alors. May parut savoir ce qu'elle devait faire, car sa figure devint tout d'un coup colorée et des larmes parurent dans ses yeux. Et aussi, les personnes elles-mêmes, les jeunes gens sur lesquels nous fixions quelquefois notre attention, dit Dot. Nous ne pensions pas le moins du monde au cours que prendraient les événements. Je n'avais jamais pensé à John, j'en suis bien sûr. Et si je vous avais dit que vous seriez un jour marié à M. Tackleton, comme vous m'auriez souffleté, n'est-ce pas vrai, May ? Quoique May ne voulût pas dire oui, elle ne dit certainement pas non positivement d'aucune manière. Tackleton se mit à rire avec bruit et lourdement. John Peerybingle rit aussi de sa manière d'homme heureux et de bonne humeur. Mais son rire était en quelque sorte murmuré à côté de celui de Tackleton.
Quelques-uns d'entre eux sont morts, dit Dot, et quelques-uns oubliés. Quelques autres, s'ils pouvaient se tenir auprès de nous en ce moment, ne pourraient pas croire que nous soyons les mêmes créatures. Ils ne se fieraient ni à leurs yeux ni à leurs oreilles et se refuseraient à croire que nous puissions les oublier de cette manière. Non, ils ne croiraient pas à un seul mot de tout cela.
Mais, Dot, s'exclama le voiturier, petite femme.
Elle avait parlé avec tant d'ardeur et de feu qu'elle éprouvait le besoin que quelqu'un la rappelât à elle-même, sans doute. La réprimande de son mari était vraiment douce, car il n'était simplement intervenu, il le supposait du moins, que pour défendre le vieux Tackleton. Dot s'arrêta aussi et n'en dit pas davantage. Mais son silence même laissait percer une agitation peu ordinaire, agitation dont le circonspect Tackleton prit note secrètement, après l'avoir observé de ses yeux à demi fermés, et dont il se souvint dans l'occasion, ainsi que vous le verrez bientôt.
May ne prononça pas un mot, ni en bien ni en mal, mais elle se tint immobile et silencieuse, les yeux baissés, et ne donnant aucun signe de l'intérêt qu'elle prenait à ce qui s'était passé. La bonne dame, sa mère, s'interposa alors. Observant dans son premier exemple que les jeunes filles étaient des jeunes filles et que ce qui était passé était bien passé, et que aussi longtemps que la jeunesse est jeune et étourdie, elle doit, suivant toute probabilité, se conduire avec l'étourderie de la jeunesse, elle ajouta à cela encore 2 ou 3 raisons d'un caractère tout aussi incontestable. Elle observa alors, dans une dévote pensée, qu'elle remerciait le ciel d'avoir toujours trouvé dans sa fille May une enfant obéissante et soumise. Elle ne s'en félicitait pas elle-même, quoiqu'elle eût quelques raisons de croire que c'était uniquement à elle que sa fille le devait. Quant à ce qui concerne M. Tackleton, disait-elle, c'était au point de vue de la morale un homme irréprochable, et en le considérant sous le point de vue d'un futur gendre, il faudrait ne pas avoir de sens pour ne pas l'accepter. Ces derniers mots furent prononcés d'un ton emphatique. Relativement à la famille dans laquelle il allait entrer, après en avoir fait la demande, elle pensait que M. Tackleton
savait que, malgré son peu d'importance sous le rapport de la fortune, elle avait quelques prétentions à la noblesse, et que si certaines circonstances, pas entièrement vagues, se rapportant au commerce de l'indigo, s'étaient passées différemment, elle pouvait peut-être se trouver en possession d'une grande fortune. Elle fit alors la remarque qu'il ne fallait pas faire allusion au passé et ne voulut pas rappeler que sa fille avait déjà quelque temps avant rejeté la demande de M. Tackleton. Et elle témoigna l'intention de supprimer une foule d'autres choses qu'elle raconta cependant avec beaucoup de détails. Finalement, elle donnait comme le résultat général de ses observations et de son expérience que tous les mariages où il y avait le moins de ce qu'on est convenu d'appeler romanesquement et sottement de l'amour étaient toujours les plus heureux, et elle augurait le plus grand bonheur, non pas un bonheur ravissant, mais un bonheur solide et constant pour les prochaines noces. Elle concluait en informant la compagnie que le lendemain était le jour pour lequel elle avait vécu dans la tente, et que, passé ce jour, elle ne désirerait rien d'autre chose que d'être expédiée dans une place agréable d'un cimetière. Comme toutes ces remarques étaient de celles auxquelles il est tout à fait impossible de répondre, ce qui du reste est l'heureuse propriété des remarques suffisamment hors de propos, elles changèrent le courant de la conversation et détournèrent l'attention générale au profit du pâté de veau et de jambon, du mouton froid, des pommes de terre et de la tarte. De peur que la bière en bouteille ne fût négligée, John Peerybingle proposa de boire au lendemain, au jour du mariage, et il prit sur lui de boire une rasade à cette santé avant de poursuivre sa journée. Car il faut que vous sachiez que John Peerybingle ne restait là que le temps pendant lequel on débridait et rafraîchissait son vieux cheval. Il lui fallait aller à 4 ou 5 milles plus loin, et alors, quand il retournait le soir, il ramenait Dot et faisait une autre halte chez lui. C'était l'ordre du jour toutes les fois qu'il y avait pique-nique, et il n'y en avait jamais eu d'autre depuis leur institution. Il y avait deux personnes présentes entre le fiancé et la fiancée qui étaient restées indifférentes à ce toast. Une d'elles était Dot, trop troublée et impressionnée pour se prêter à aucun des petits incidents du moment. L'autre était Berthe, qui se leva de table à la hâte avant tout le monde. « Bonjour !» dit le vigoureux John Peerybingle en s'enveloppant de sa redingote de voyage. « Je serai de retour à l'heure habituelle, et bonjour à tous !»« Bonjour, John !» répondit Caleb. Il sembla prononcer ce « bonjour » par routine, et il l'accompagna d'un geste de la main tout à fait inconscient, car toute son attention était occupée à observer Berthe, qu'il suivait d'un regard anxieux et dont rien n'altérait jamais l'expression. « Bonjour, jeune fripon !» dit le gai voiturier en se baissant pour embrasser l'enfant que Tilly Slobody, accompagné uniquement avec son couteau et sa fourchette, avait déposé endormi, et chose étrange à dire, sans accident, dans le petit lit que Berthe lui avait garni. « Bonjour, le temps viendra, je suppose, mon petit ami. Vous irez voyager avec le froid et vous vous laisserez votre vieux père au coin de la cheminée avec sa pipe et ses rhumatismes. Mais où est Dot ?»« Je suis ici, John, » dit-elle en tressaillant. « Allons, allons, » reprit le voiturier en frappant ses mains sonores l'une contre l'autre. « Où est la pipe ?»« Oh, oh, j'avais complètement oublié la pipe, John. »« Oublié la pipe ? A-t-on jamais pu avoir l'idée de cela ? Elle avait oublié la pipe !»« Oh, je vais la bourrer immédiatement, » dit-elle. « Ce sera fait de suite. » Mais ce ne fut pas fait de suite. La pipe se trouvait à sa place accoutumée, dans la poche de la redingote du voiturier. Cette petite poche était l'ouvrage de Dot elle-même, celle où elle avait toujours coutume de prendre le tabac. Mais sa main tremblait tellement qu'elle s'y embarrassa, et c'était pourtant la même main qui y entrait et qui en sortait si aisément, j'en suis sûr. Les fonctions de bourrer et d'allumer la pipe, petites occasions pour lesquelles je vous vantais l'habileté de Dot, si vous vous en souvenez, furent faites avec maladresse et embarras. Pendant ce temps, Tackleton la considérait attentivement et malicieusement de son œil à demi fermé. Et toutes les fois que son regard rencontrait le sien, ce regard, semblable à une espèce de trappe destinée à l'engloutir, augmentait sa conclusion à un remarquable degré.
Comme vous êtes gauche cet après-midi, Dot, dit John. Je crois que j'aurais mieux fait moi-même, je le crois vraiment.
Après avoir prononcé ces paroles d'un ton de bonne humeur, il sortit, s'éloignant à grands pas. Et on entendit bientôt après Boxer, le vieux cheval et la voiture faire leur musique dans la rue. Caleb, pendant ce temps, toujours immobile et rêveur, n'entendit rien et continua à regarder sa fille aveugle avec la même expression de visage.
« Berthe, dit Caleb doucement, que vous est-il arrivé? Comme vous êtes changée, ma bien-aimée, depuis ce matin. Vous avez été silencieuse et triste tout le jour. Que signifie cela, dites-le-moi?
Oh, mon père, mon père, s'écria la jeune aveugle en fondant en larmes. Mon triste, triste sort.
Caleb passa sa main sur ses yeux avant de lui répondre.
Mais songez combien vous avez été heureuse et gaie, Berthe. Combien vous étiez bonne et combien vous avez été aimée par plusieurs personnes.
Et c'est ce qui me fend le cœur, mon cher père, vous toujours si soigneux, vous toujours si prévenant pour moi.
Caleb avait bien peur de la comprendre.
Être aveugle, Berthe, ma pauvre fille, dit-il en hésitant, c'est sans doute une grande affliction, mais je ne l'ai jamais ressenti, s'écria la jeune aveugle. Je ne l'ai jamais ressenti, du moins d'une manière complète, non, jamais. J'ai quelquefois souhaité de vous voir et de le voir, lui. Vous voir une fois seulement, mon cher père, seulement pendant une minute, afin de pouvoir connaître le trésor que j'ai ici, dit-elle en posant sa main sur son cœur et être assurée que je ne me trompe pas. Et quelquefois, j'étais une enfant à cette époque, j'ai pleuré pendant que je priais la nuit, en pensant que vos chères images qui montent de mon cœur au ciel pourraient ne pas avoir votre ressemblance. Mais je ne suis pas restée longtemps inquiète pour cela. C'est passé maintenant, et je me sens tranquille et contente.
Et vous le serez encore, dit Caleb.
Mais, père, mon bon et tendre père, supportez-moi si je suis coupable, dit la jeune aveugle. Ce n'est pas le chagrin qui m'affecte de cette manière.
Son père ne put s'empêcher de pleurer. Elle avait parlé d'un ton si pathétique. Mais il ne la comprenait pas, non, pas encore.
Conduisez-la vers moi, dit Berthe. Je ne puis garder ce secret renfermé en moi-même. Amenez-la moi, mon père.
Elle comprit qu'il hésitait et lui dit
« May, amenez-moi, May. »
May, en entendant prononcer son nom, vint vers elle et lui toucha le bras. La jeune aveugle se retourna tout d'un coup et lui saisit les deux mains.
Regardez mon visage, cher ami, charmant ami, dit Berthe. Lisez-y avec vos beaux yeux et dites-moi si la vérité y est écrite.
Cher Berthe, oui. La jeune aveugle, tournant vers elle sa figure pâle et privée de lumière, d'où s'échappaient de nombreuses larmes, lui adressa la parole en ces termes.
Il n'existe pas dans mon âme un souhait ou une pensée qui ne soit pour votre bonheur, charmante May. Il n'est pas dans mon âme un gracieux souvenir, un souvenir plus profond et plus reconnaissant des soins et de l'affection que vous portez à l'aveugle Berthe depuis que nous étions toutes deux enfants, si je puis dire que Berthe a eu une enfance. J'appelle sur votre tête toutes les bénédictions. Que vous rencontriez le bonheur sur vos pas. Je ne le souhaite pas moins ardemment, ma chère May, dit-elle, en la pressant tendrement contre elle, pas moins ardemment, parce qu'aujourd'hui, en apprenant que vous vouliez être sa femme, mon cœur a été presque brisé. Mon père, May, Marie, pardonnez-moi, à cause de ce qu'il a fait pour soulager la tristesse de ma vie d'aveugle, et à cause de la confiance que vous avez en moi lorsque j'appelle le ciel à témoin que je ne pouvais lui souhaiter une femme plus digne de sa bonté. » En prononçant ces mots, elle avait quitté les mains de May Fielding pour s'attacher à ses vêtements dans une attitude de supplication et d'amour. Se laissant glisser peu à peu jusqu'à terre, après qu'elle eut achevé son étrange confession, elle se laissa tout à fait tomber aux pieds de son amie et cacha sa figure brivée de lumière dans les plis de sa robe.
« Puissance divine !» s'écria son père, éclairé cette fois par la vérité. Ne l'ai-je trompé depuis le berceau que pour lui briser le cœur à la fin?
Ce fut un bonheur pour tout le monde que la petite dot, active et utile, car elle l'était, quelles que fussent ses fautes, cependant, vous pouvez apprendre plus tard à la haïr, ce fut un bonheur pour tous, dis-je, qu'elle fût là, sans quoi il aurait été difficile de dire comment cela aurait fini. Mais Dot, reprenant possession d'elle-même, s'interposa avant que May pût répondre ou Caleb dire une autre parole.
« Venez, venez, chère Berthe, sortez avec moi. Donnez-lui votre bras, May. Ah, voyez comme elle est calme déjà et comme il est bien de sa part de songer à nous. » dit la chère petite femme en la baisant sur le front. « Venez, chère Berthe, et son bon père viendra avec elle, n'est-ce pas, Caleb ?»
Dot était une noble femme dans ces choses-là. Il aurait fallu être d'une nature bien endurcie pour se soustraire à son influence. Lorsqu'elle eut emmené le pauvre Caleb et sa Berthe pour se consoler et se soutenir l'un l'autre, car elle savait que seule pouvait le faire, elle retourna en bondissant, aussi fraîche qu'une marguerite, je dis même plus fraîche, pour empêcher la chère vieille créature de faire quelque découverte.
Apportez-moi le cher baby, dit-elle, en tirant une chaise près du feu, et pendant que je l'aurai sur mes genoux, Tilly, Mistress Fielding me dira tout ce qui concerne le soin des enfants et me redressera sur 20 points sur lesquels j'aurais pu manquer. N'est-ce pas, Mrs. Fielding ? »
La vieille dame tomba dans le piège. La sortie de Tackleton, chuchotement de 2 ou 3 personnes se cachant d'elle, des plaintes sur le commerce de l'indigo,
l'aurait tenu sur ses gardes pendant 24 heures. Mais cette déférence d'une jeune mère pour son expérience était si irrésistible qu'après avoir feint un instant de s'excuser sur son humilité, elle commença à lui donner ses instructions avec la meilleure grâce du monde, et s'asseyant tout à coup devant la méchante dot, elle lui débita dans une demi-heure plus de recettes et de préceptes domestiques infaillibles qu'il en aurait fallu, si on les avait mis en pratique, pour tuer le petit Peerybingle quand il aurait eu la vigueur de Samson enfant. Pour changer de sujet, Dot fit un petit travail à l'aiguille. Elle mit dans sa poche tout le contenu d'une boîte à ouvrage. Elle fit un peu téter son enfant. Elle reprit ensuite son travail à l'aiguille, puis fit une petite causerie tout bas avec May, pendant que la vieille dame pérorait. De sorte qu'avec ses petites occupations qui lui étaient habituelles, elle trouva l'après-midi très courte. Enfin, comme il se faisait nuit, et comme son devoir était de remplir la tâche de Berthe dans le ménage, elle garnit le feu, balaya le foyer, dressa la table à thé et alluma une chandelle. Après cela, elle joua un ou deux airs sur une harpe grossière que Caleb avait fabriquée pour Berthe, et elle les joua très bien, car la nature l'avait douée d'une oreille aussi délicate pour la musique qu'elle aurait été bien faite pour être ornée de bijoux, et elle l'avait eu apporté. À ce moment, arriva l'heure du thé, et Tackleton vint pour le prendre et passer la soirée. Caleb et Berthe étaient revenus quelques instants auparavant, et Caleb s'était assis pour s'occuper de son travail de l'après-midi. Mais il ne put rester assis tant il était agité, le pauvre, par ses remords au sujet de sa fille. On était touché en le voyant assis sans rien faire sur sa chaise à travail, la regardant fixement et disant en face d'elle « Mais l'ai-je trompé depuis son berceau pour lui briser le cœur ?» Lorsqu'il fut nuit et que le thé fut fait, que Dot n'eut rien plus à faire que de nettoyer les tasses, en un mot, car il faut que j'en vienne là, il est inutile de t'en tarder. Lorsque le moment fut venu d'attendre le retour du voiturier, en écoutant le bruit éloigné de ses roues, les manières de Dot changèrent. Elle rougit et pâlit tour à tour, et elle ne put pas rester en place. Ce n'était pas comme d'autres braves femmes lorsqu'elles écoutent si leur mari vient. Non, 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 c'était une autre manière d'être agitée. On entendit des roues, le pas d'un cheval, l'aboiement d'un chien. Ces bruits réunis se rapprochèrent. On entendit les pattes de boxeur gratter à la porte. Qui est ce pas ? S'écria Berthe en tressaillant. Qui est ce pas ? Répondit le voiturier en se présentant à la porte avec son rude et brun visage rougi par le froid du soir. Mais c'est le mien !
Mais l'autre pas, dit Berthe, celui de l'homme qui est derrière vous.
On ne peut la tromper, dit le voiturier en riant. « Venez, monsieur, vous serez bien reçu, n'ayez pas peur. »
Il parlait haut, et le monsieur sourd entra.
« Il n'est pas tellement étranger que vous ne l'ayez déjà vu autrefois, Caleb, » dit le voiturier. « Vous lui donnerez une chambre dans la maison jusqu'à ce que nous partions.
Oh, »« Certainement, John, et ce sera un honneur pour nous. »
« Il n'y a pas de meilleure société que la sienne pour parler en secret, » dit John. « J'ai de bons poumons, mais il les met à l'épreuve, je vous assure.
Asseyez-vous, monsieur. Ce sont tous des amis et ils sont charmés de vous voir. »
Lorsqu'il lui donnait cette assurance d'un ton de voix qui prouvait ce qu'il avait dit de ses poumons, il ajouta de son ton ordinaire « Donnez-lui une chaise au coin de la cheminée, laissez-le s'asseoir en silence et regardez-le amicalement. C'est tout ce dont il a besoin. Il est facile à contenter. » Berthe avait écouté avec attention. Il fit venir Caleb à son côté. Quand il eut placé la chaise, elle lui demanda de lui dépeindre le nouveau venu. Lorsqu'il l'eut fait avec une fidélité vraiment scrupuleuse, elle fit un mouvement, le premier depuis que cet homme était entré, et après cela, elle sembla ne plus prendre intérêt à lui. Le brave voiturier était tout joyeux et plus amoureux de sa petite femme que jamais. « Ma dot n'est guère bien mise, » dit-elle en l'embrassant, « mais elle fut un peu à l'écart, mais je l'aime autant comme cela. « Voyez, là-bas, Dot, » lui montrait le vieillard. Dot baissa les yeux. Je crois qu'elle tremblait. « Ah, ah, mais il est plein d'admiration pour vous. Nous n'avons parlé que de vous tout le long de la route. Oh, c'est un brave vieux. Je l'aime pour cela. »
« Voudrais qu'il y ait un meilleur sujet de conversation, John, » dit-elle en jetant un regard autour d'elle, surtout vers Tackleton.
« Un meilleur sujet ?» s'écria le jovial John. « Pas du tout. Allons, à bas le manteau, à bas le chalepet, à bas ces lourdes enveloppes. Passons une bonne demi-heure près du feu. » « Je suis à vos ordres, mais c'est une partie de cartes, vous et moi. Cela vous va ?»« Dot, les cartes et la table. Un verre de bière ici, s'il en reste, ma petite femme. »
Son défi s'adressait à la vieille, qu'il accepta gracieusement, et bientôt ils furent occupés à jouer. D'abord le voiturier regarda autour de lui avec un sourire, ou bien il l'appelait Dot pour lui faire voir son jeu par-dessus son épaule, ou pour lui demander conseil sur un coup. Mais son adversaire étant ferré, il comprit qu'il lui fallait plus de vigilance et pas de distraction pour ses yeux ni ses oreilles. De cette manière, toute son attention fut graduellement absorbée par les cartes, et il ne pensa plus à rien, jusqu'à ce qu'une main placée sur son épaule lui rappela Tackleton.
Oh, « Je suis fâché de vous déranger, mais un mot tout de suite. »« Je vais jouer, » dit le voiturier, « le moment est critique. »«
Venez, » dit Tackleton. En voyant la pâleur de son visage, le voiturier se leva et lui demanda vivement de quoi il s'agissait.
Chut! John Pirbingle, dit Tackleton, j'en suis fâché, vraiment je le suis. Je l'ai craint, je l'ai soupçonné tout d'abord.
Mais qu'est-ce? Dit le voiturier d'un air effrayé.
Chut! Je vous montrerai si vous venez avec moi.
Le voiturier l'accompagna sans dire un mot de plus. Ils traversèrent une cour où brillaient les étoiles et ils entrèrent par une porte latérale dans ce comptoir de Tackleton où il y avait une fenêtre vitrée qui permettait de voir dans le magasin. Elle était fermée pendant la nuit. Il n'y avait pas de lumière dans le comptoir, mais il y avait des lampes dans le magasin long et étroit. Et par conséquent, la fenêtre était éclairée.
« Un moment, » dit Tackleton, « avez-vous le courage de regarder par cette fenêtre ?»«
Pourquoi pas ?» répondit le voiturier.
Encore un moment, dit Tackleton. Pas de violence, elle ne sert de rien, elle est dangereuse. Vous êtes un homme fort et vous pourriez commettre un meurtre avant de le savoir.
Le voiturier le regarda en face et recula d'un pas comme s'il avait été frappé. Dans une enjambée, il fut à la fenêtre et il vit. Oh, foyer souillé! Oh, fidèle grillon! Oh, perfide femme! Il la vit avec le vieillard qui n'était plus vieux, mais droit et charmant, tenant à la main ses faux cheveux qui lui avaient ouvert l'entrée de cette maison désolée. Il vit qu'elle l'écoutait, tandis qu'il baissait la tête pour lui parler à l'oreille. Il les vit s'arrêter. Il la vit, elle, se retourner de manière à avoir son visage, ce visage qu'il aimait tant, présent à sa vue. Et il la vit de ses propres mains ajuster la chevelure mensongère sur la tête de l'homme en riant de sa nature peu soupçonneuse. Il serra d'abord sa vigoureuse main étroite, comme s'il avait voulu frapper un nom. Mais, l'ouvrant aussitôt, il la déploya devant les yeux de Tackleton, car il aimait cette femme, même en ce moment, et quand ils eurent passé, il tomba sur un pupitre, faible comme un enfant. Il était enveloppé jusqu'au menton, et occupé de son cheval et de ses paquets, quand elle entra dans le salon, se préparant à rentrer dans la maison.
« Me voilà, John, mon cher. Bonne nuit, May, bonne nuit, Berthe. »
Pouvait-elle les embrasser? Pouvait-elle être gaie en parlant? Pouvait-elle montrer son visage sans rougir? Oui. Tackleton l'observait de près, et elle fit tout cela. Tilly faisait taire le bébé, et elle passa et repassa une douzaine de fois devant Tackleton, en répétant lentement « Son père ne l'a-t-il trompé son berceau que pour lui briser le cœur à la fin ?»
Donnez-moi le baby. Bonne nuit, monsieur Tackleton. Mais où est John, mon Dieu?
Oh, il est allé se promener, dit Tackleton en l'aidant à s'asseoir.
Mon cher John, se promener ce soir?
La figure empaquetée de son mari fit un signe affirmatif. Le faux étranger et la petite nourrice étaient à leur place. Le vieux cheval partit. Boxer, l'insouciant boxer, courant devant, courant derrière, courant autour de la voiture et aboyant aussi triomphalement et aussi gaiement que toujours. Lorsque Tackleton fut aussi sorti, escortant May et sa mère chez elle, le pauvre Caleb s'assit près du feu à côté de sa fille. Plein de tristesse et de remords, il se disait « Mais ne l'ai-je trompé depuis le berceau que pour lui briser le cœur à la fin ?» Les jouets que l'on avait mis en mouvement pour l'enfant étaient déjà depuis longtemps immobile, les poupées imperturbablement calmes dans le silence et le demi-jour, les chevaux fougueux avec leurs yeux et leurs naseaux ouverts, les vieux messieurs debout à des portes étroites avec leurs genoux et leurs chevilles fléchissants, les casse-noisettes avec leurs figures grimaçantes, les bêtes se dirigeant vers l'arche de Noé deux à deux, comme des écoliers en promenade, pouvaient être regardés comme frappés d'immobilité par l'étonnement, à la vue de Dot, convaincu de fausseté, ou de Tackleton, digne d'être aimé,
par quelque combinaison de circonstances.